7h, 10h sur Radio Courtoisie, Ligne Droite, avec Richard de Sèze.
Chers amis, il est 8h44 et comme Alexandre de Galzin est parti pour la Hongrie, il nous racontera ça tout à l'heure à 9h. Et tout de suite, c'est l'analyse de Magda.
Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Radio Courtoisie, indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Et vous allez nous parler du Vatican.
Eh bien oui, exactement. Alors chers auditeurs, il se passe parfois dans le fracas du monde des choses que notre gouvernement, notre pays, les États ne savent plus vraiment faire, mais que la diplomatie vaticane maintient. Et la rencontre de ce vendredi entre Emmanuel Macron et le pape Léon XIV n'a rien d'anecdotique. C'est la première audience entre le chef de l'État français et le nouveau souverain pontife, près d'un an après son élection. L'Élysée présente ce déplacement comme une visite républicaine et laïque dans le cadre du dialogue constant entre le Saint-Siège et la France. Mais derrière cette formule très française, très administrative, il faut voir la réalité quand les chancelleries piétinent. Le Vatican demeure un acteur diplomatique écouté, reçu et souvent respecté, précisément parce qu'il n'est pas une puissance militaire, parce qu'il n'a pas d'intérêt industriel à vendre et parce qu'il sait encore parler à des camps qui ne se parlent plus. Ce rendez-vous de Rome arrive au moment exact où le Saint-Siège tente de réoccuper l'espace politique et moral, avec une diplomatie qui est discrète, lente, mais souvent bien plus efficace que les postures tonitruantes des grandes puissances. Le Vatican, au fond, conserve un avantage que beaucoup d'États ont perdu. Il travaille dans le temps long, il ne commande pas simplement l'événement du jour. Il s'inscrit dans une continuité, avec une mémoire, dans une certaine idée de la personne humaine, de la paix, de la médiation et de la civilisation même. Et c'est peut-être cela qui lui donne encore aujourd'hui un poids aussi important. Dans un monde où tant de dirigeants changent de ligne au rythme des crises, le Vatican continue d'apparaître comme l'un des rares lieux où une parole peut encore se déployer sans être immédiatement dissoute dans la communication. Et cette permanence compte, elle compte politiquement, diplomatiquement et d'une certaine manière spirituellement aussi.
Mais au fond, vous nous dites que le Vatican demeure aujourd'hui une vraie puissance diplomatique alors que les États européens paraissent au contraire de plus en plus impuissants.
Eh bien oui, ça, d'une certaine manière, pas une puissance au sens classique. Hein. Évidemment, le Vatican n'a pas l'armée, ni levier économique, ni capacité de coercition que les États de l'Union européenne peuvent vanter. Mais il a autre chose, il a une autorité qui est morale, il a aussi une ancienneté, un réseau, une culture de la médiation. Et cela, dans une époque de brutalisation générale, redevient vraiment une ressource. Ce n'est pas le Vatican qui impose, mais c'est lui qui relie. Ce n'est pas le Vatican qui frappe, mais c'est lui qui tient des canaux ouverts quand les autres les ferment. Et dans bien des crises, cela pèse plus lourd qu'on ne veut bien le reconnaître. Et pour revenir donc sur la rencontre entre Emmanuel Macron et le pape Léon XIV, le cœur de l'échange portera d'abord sur l'actualité internationale. L'Élysée parle des défis soulevés par l'actualité internationale, de paix, de multilatéralisme, d'humanitaire, de climat et même de régulation de l'intelligence artificielle, mais il y a surtout évidemment en arrière-plan la guerre au Moyen-Orient. Et on comprend bien dans ce contexte pourquoi Paris veut apparaître aux côtés du Vatican, parce que la parole du Saint-Siège conserve un poids qui est particulier lorsqu'elle parle de paix, de limites, de droits, de dignité humaine. Et en clair, Emmanuel Macron, il vient aussi chercher au Vatican ce qui lui manque souvent ailleurs. Hein. Donc de la hauteur, de la gravité, et voire peut-être même un relais et tout le reste que je ne citerai pas ici.
Et cette rencontre entre Emmanuel Macron et Léon XIV est aussi une façon pour le président français d'aller chercher au Vatican une certaine forme de crédibilité morale qu'il n'a pas forcément partout ailleurs.
Ouais, bah oui, il y a clairement de ça, non pas parce que l'Élysée s'effacerait derrière le Saint-Siège, mais parce qu'il y a aujourd'hui une forme d'évidence sur certaines questions. La parole romaine, elle garde une densité que la parole politique occidentale a souvent perdue. Et Emmanuel Macron le sait, se montrer aux côtés du pape dans un moment aussi tendu, c'est aussi tenter de s'adosser à cette densité-là, à cette gravité-là. Et c'est une séquence qui est une séquence diplomatique, bien sûr, mais c'est aussi un événement qui est une séquence qui est aussi très symbolique. Et il faut ajouter un autre point qui est aussi très français, celui-là, et politiquement très sensible, c'est la fin de vie. puisque le sujet devrait être abordé pendant l'entretien. Et là encore, il n'y a pas d'ambiguïté possible. Le Vatican continue de considérer l'euthanasie comme un crime contre la vie humaine et le suicide assisté comme un grave péché. Et sur ce dossier, le Vatican, il est très clair, hein, alors que le pouvoir français, lui, avance à pas compter avec un vocabulaire compassionnel, juridique, procédural, qui masque souvent la profondeur de la rupture engagée. Et c'est l'un des intérêts majeurs aussi de cette rencontre. Elle rappelle que le Vatican, qu'on partage ou non sa doctrine, reste l'une des dernières institutions en Europe à assumer une cohérence doctrinale sur les questions anthropologiques fondamentales.
Oui, justement, c'est même le Vatican qui apparaît comme la dernière institution réellement cohérente sur la question dans tout ce qu'on a appelé la culture européenne.
Oui, voilà, c'est probablement ce qui le rend d'ailleurs si précieux pour un certain nombre d'entre vous, chers auditeurs, pour les croyants, mais aussi plus largement pour des Français qui sentent bien que la confusion s'installe partout. Il ne s'agit pas seulement ici de morale religieuse, il s'agit aussi d'une vision de l'homme, et à l'heure où presque tout devient discutable, négociable, réversible, le Vatican demeure quand même l'un des rares lieux institutionnels où on continue à dire qu'il existe des limites, qu'il existe une dignité irréductible, qu'il existe une vérité sur l'homme qui ne se réduit pas au désir individuel ou à l'ère du temps. Et cela, dans le débat européen contemporain, c'est vraiment devenu rare. Mais le sujet le plus intéressant aussi du côté géopolitique, c'est aussi l'Algérie. Car cette audience a lieu 3 jours avant la visite historique de Léon XIV en Algérie, qui aura lieu donc du 13 au 15 avril. Première visite d'un pape dans ce pays. Donc c'est pas un voyage qui sera folklorique, hein, ni un simple déplacement pastoral. C'est une visite qui est chargée de symboles religieux, historiques, diplomatiques, extrêmement importants. Pourquoi l'Algérie ? Parce que ce sera d'abord une prière historique, parce que le pape Léon XIV, il s'inscrit dans un pontificat, dans une logique avec des ponts avec le monde musulman. Il y a vraiment une volonté très claire d'un dialogue, évidemment, mais aussi d'une manière de rappeler qu'avant l'Algérie contemporaine, avant les crispations idéologiques, avant les fractures mémorielles, il y a aussi une profondeur augustinienne, chrétienne, africaine et méditerranéenne de cette terre. Et cela, politiquement, c'est pas neutre. Le Vatican ne vient pas seulement saluer une petite communauté catholique. Le Vatican rappelle aussi une histoire longue, parce que oui, l'histoire de l'Algérie ne commence pas avec l'islam.
Et le cardinal Vesco nous expliquait que tout le monde se souvenait en Algérie de Saint-Augustin, le berbère. Bon, on n'est pas obligé de suivre le cardinal Vesco là-dessus. Il n'y a plus que 8000 catholiques en Algérie et ça a l'air d'être très compliqué. Et est-ce que là aussi, la France ne s'appuie-t-elle pas sur le Vatican pour faire en sorte que sa diplomatie algérienne reprenne un peu figure, Laurent Nunez ne suffisant pas forcément?
Bah oui, c'est une des hypothèses qui est assez sérieuse. Il y a même RCF qui rapporte l'analyse de Jean-Baptiste Noé qui estime que s'appuyer sur la diplomatie du Vatican, c'est une bonne chose parce que le Saint-Siège est aujourd'hui l'un des rares États à entretenir de bonnes relations diplomatiques avec l'Algérie. Et cela ne veut pas dire que Léon XIV va régler à lui seul la crise franco-algérienne, évidemment. Mais cela veut dire que lorsque les relations politiques se dégradent, il reste parfois des interlocuteurs que tout le monde accepte encore d'écouter. Et le Vatican est de cela, et cela en dit long d'ailleurs sur l'état de la diplomatie française elle-même, hein. C'est sûr.
Derrière cette question algérienne, il y en a une autre. Comment la France, ancienne puissance de référence sur la rive sud de la Méditerranée, en est-elle réduite à espérer que le Vatican aide à rouvrir en fait, des voies diplomatiques?
Parce que le Vatican, il a pas de pétrole, il n'a pas de marché à vendre, il a conservé quelque chose que beaucoup d'États ont perdu d'ailleurs. C'est une parole qui est identifiée, une continuité, une capacité à tenir le temps long, et c'est précisément cette continuité qui fait sa valeur aujourd'hui, c'est ce que je disais un peu précédemment, mais ce nouveau chapitre entre la France et le Vatican tient aussi à la personnalité du pape Léon XIV, hein, évidemment. Les analyses reprises ces derniers jours soulignent bien qu'il vient du monde occidental, qu'il connaît la sécularisation, qu'il paraît plus juridique, plus feutré, plus structuré dans ses manières de faire passer ses messages que le pape François, et c'est vrai que ça peut faciliter les choses avec la France, notamment aussi sur des sujets comme la laïcité, d'ailleurs, sans changer le fond, et c'est important à comprendre, c'est que le pape Léon XIV, il a un style plus sobre, ce qui signifie pas une pesée, une pensée plus faible d'ailleurs. Et on voit que le pape, il veut peser par la cohérence et pas forcément par l'emportement.
Alors, on va aborder un dernier point très rapidement. C'est quelque chose qui peut nous toucher vraiment directement. C'est la France intéresse le Vatican et réciproquement parce qu'il y a un regain de foi catholique en France.
Bah oui, exactement. On en parlait mardi justement dans un décryptage, mais on décryptait dessus. Et en fait, cette année à Pâques, il y a eu 21 386 baptêmes de catéchumènes. dont 13 000 adultes environ, 8 000 adolescents. Et en fait, on a une hausse de 28% par rapport à l'an dernier et même x3 par rapport aux 10 dernières années. Et c'est un chiffre, enfin, ce chiffre ne dit pas que, évidemment, que la France redevient soudainement un pays unanimement catholique, parce qu'il y a encore un peu de travail, mais il dit quand même quelque chose de plus fin et aussi de plus profond, c'est que dans une société qui est fatiguée, fragmentée, on a quand même une partie de la jeunesse et des adultes français qui cherchent à nouveau du sens, de la stabilité, une forme un peu d'enracinement. Et le pape, il n'est pas indifférent à ça. Il n'est pas indifférent à la France et à toutes ces conversions. Et en fait, ce regain de foi, le pape regarde aussi la fille aînée de l'Église pour ce qu'elle est encore malgré tout quand même.
Merci beaucoup, Magda.
7h, 10h sur Radio Courtoisie. Suivez la ligne droite.
Et avant de retrouver Alexandre de Gazin, un petit détour par les catacombes qui rouvrent au bout de plusieurs mois de fermeture, années même.
Ce mercredi 8 avril, après 5 mois de travaux, les catacombes de Paris ont rouvert leurs portes, avec une scénographie nouvelle. Trop commerciale, disent Jean-Baptiste, Timothée et François. Une bande d'aventuriers chevronnés qui préfèrent, comme des centaines de Parisiens, descendre illégalement dans les carrières de Paris, appelées abusivement catacombes. Après une descente en rappel de 30 mètres, nous voilà dans le ventre de Paris.
Bah moi, je suis descendu dans les carrières en 2019 pour la première fois. J'arrivais à Paris. Et en fait, j'ai un peu été rapidement essoufflé par le rythme de la vie. J'étais étudiant, je trouvais que tout allait trop vite. J'avais vraiment besoin de faire une pause. Moi, j'ai vraiment de la campagne. Et le but, c'était de trouver un endroit pour ralentir. Et en fait, un peu au hasard, j'ai rencontré des gens qui descendaient dans les carrières de Paris. Et j'ai fait une première descente avec eux. Et c'est là que j'ai vraiment retrouvé un peu du calme et de la lenteur. Déjà parce que on n'a pas de réseau. Je trouve que la perception du temps est vraiment différente. Et puis on rencontre des gens qu'on ne rencontrerait pas à la surface, des activités qu'on ne verrait pas à la surface. Et ça, je trouve que vraiment, ça fait sortir de la routine. Et c'est vraiment cette aventure-là que je cherchais en premier. Les catacombes, c'est un peu abusif comme nom, c'est un peu trompeur dans le sens où ce qui préexiste, c'est les carrières de pierre. Il y a 300 km de couloirs entre Paris et Proche-Couronne. Et puis, il y a un jour, à un moment où les cimetières étaient trop pleins, on a décidé de déterrer des corps et de lancer ces ossements dans ces puits-là, qui n'étaient plus utilisés. Et donc, aujourd'hui, effectivement, il y a environ, on estime environ à 6 millions de Parisiens qui reposent dans les carrières. Et donc ici, on fait aussi des rencontres. Alors ça dépend un peu des régions du réseau, ça dépend un peu des soirs. Il peut se passer toutes sortes de choses.
Très ému par la poésie et j'aime l'apprendre, j'aime la dire, j'aime la partager à d'autres surtout parce que je crois que la poésie permet de vivre le beau au quotidien. Où sont-ils ?
Sont-ils rois en quelque île ?
Nous ont-ils délaissés pour un bord plus fertile ?
Puis notre souvenir même est enseveli.
Le corps se perd dans l'eau.
Le nom dans la mémoire.
Le temps qui sur toute ombre en verse une pluie noire.
Sur le sombre océan.
Jette le sombre oubli.
Et voilà, un reportage de Benjamin
Zilbach. Ce mercredi 8 avril, après 5 mois de travaux, les catacombes de Paris...
un reportage de Benjamin de Diesbach qu'on a menacé de vous repasser en boucle tellement on le trouvait bon, mais non, finalement on va abandonner Benjamin et ses magnifiques carrières de Paris. Je rappelle à tous les auditeurs évidemment de se jeter sur le film de Pierre Tchernia, Les Gaspards, qui se passe justement dans les catacombes de Paris. C'était sur un scénario entre autres de Goscinny, le scénariste d'Astérix. Mais tout de suite nous partons pour la Hongrie, rejoindre Alexandre de Galzin qui va nous parler de Viktor Orbán.
Ligne droite, l'analyse.
Bonjour Alexandre, vous êtes notre envoyé spécial en Hongrie.
Bonjour Richard, merci beaucoup, je suis très honoré de cette invitation.
Alors, ça fait longtemps qu'on vous connaît et vous connaissez la Hongrie, vous y êtes déjà allé. Viktor Orbán est en train de briguer un mandat supplémentaire, mais pour le moment, les sondages lui sont défavorables. Son adversaire serait à 50%, lui-même serait à 40%. À votre avis, les sondages reflètent-ils la réalité du vote ou y a-t-il peut-être un léger biais en faveur du candidat pro-Europe et donc pro-Ursula contre le méchant Viktor Orbán?
Alors, disons qu'en Hongrie, il y a un système assez particulier pour les sondages, qui est qu'il y a 6 instituts principaux. 4 sont indépendants. Je mets des guillemets pour ceux qui nous écoutent. 4 sont théoriquement indépendants et 2 sont pour le coup des instituts quasi-gouvernementaux. Et donc, dans les 4 premiers instituts de sondage, ce qu'on peut observer, c'est qu'effectivement, les résultats ne sont pas favorables à Viktor Orbán. On parle d'une différence de 15 et 20 points au minimum dans ces sondages, c'est-à-dire que, par exemple, Viktor Orbán peut être placé à 30% quand Peter Maguire serait placé à 50%. Il y a souvent des résultats qui vont dans ce sens-là. D'autres, c'est du 55-35, enfin, globalement. Ça reste, il y a quand même un écart particulièrement important qu'on peut voir dans tous ces sondages indépendants. Les sondages gouvernementaux, eux, évidemment, sont plus proches du parti au pouvoir, donc le Fidesz, donc Viktor Orbán. Et ces sondages gouvernementaux, eux, donnent un résultat qui serait autour de 40-40 pour Peter Maguire et Viktor Orbán, avec de 5% entre les deux. Mais il faut savoir que, étant donné que la Hongrie, ce n'est pas un système électoral uniquement proportionnel, ça signifie que les sondages en termes de pourcents ne suffisent pas pour estimer qui gagnera effectivement l'élection. Je peux vous expliquer ça en
un mot. Ce sont des élections législatives, hein, rappelons-le.
Oui, mais alors, ce sont des élections législatives compliquées. On a l'impression que, d'ailleurs, la complexité électorale, c'est un petit peu un principe hongrois. Pour vous faire simple, il y a 199 sièges depuis la réforme de 2011-2012. Il y a 199 sièges au Parlement hongrois, c'est-à-dire qu'il en faut 100 pour avoir la majorité, tout simplement, et il en faut à peu près 130-140 voilà, pour avoir les deux tiers et donc pouvoir faire les réformes constitutionnelles. Jusqu'ici, le Fidesz d'Orbán a toujours réussi à avoir les deux tiers, justement. Mais en fait, il y a un système électoral qui est particulier, c'est que c'est moitié proportionnel, moitié des circonscriptions. Pour la faire simple, sur les 199 sièges, 106 sièges viennent pour le coup des circonscriptions. Ça fonctionne comme en Angleterre, c'est-à-dire que c'est un scrutin uninominal à un tour, majoritaire à un tour, c'est-à-dire que le candidat qui emporte le plus de voix dans une circonscription, que ce soit 35 ou 55%, remporte la circonscription. Et donc, il y a 106 sièges qui sont distribués comme ça. Et les 93 autres, eux, sont distribués à la proportionnelle. Il y a un système de compensation qui est affreusement complexe, que je n'arriverai pas à vous expliquer, mais pour la faire simple, il faut avoir au moins 5% pour rentrer au Parlement. Et donc, ça donne une situation un petit peu particulière, qui est que Viktor Orbán peut très bien éventuellement perdre, en termes de nombre de voix pures, de proportionnel à ici dans le système proportionnel, voilà, dans les sondages quelque part, il peut très bien être derrière Peter Maguire.
Mais
d'un autre côté, ce qui est intéressant, c'est qu'il peut également en remporter plus de circonscriptions que son adversaire Peter Maguire. Et à partir de ce moment-là, ça signifiera qu'il peut avoir une forme de majorité. Voilà. Donc, et à côté de ça, il y a, je précise qu'il y a un parti nationaliste qui s'appelle Notre Parti, Notre Patrie, pardon, donc mis à Avance, et que ce parti nationaliste, lui, pourrait dépasser les 5% et donc avoir des sièges au Parlement et donc s'allier avec Viktor Orban si jamais Viktor Orban en a besoin.
Alors, vu depuis les médias de grand chemin français, on nous explique que Viktor Orban est le déshonneur de l'Europe et que il y a d'ailleurs un véritable scandale, c'est-à-dire que Peter Szijjártó avait donc qui fait partie du gouvernement Orban avait assuré à Sergueï Lavrov qu'il allait lui transmettre un document concernant les négociations d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Et donc selon Paulo Pignot, porte-parole de la Commission européenne, ce sont des informations très préoccupantes, avec la possibilité alarmante qu'un gouvernement d'un État membre ait coordonné ses actions avec la Russie contre la sécurité et les intérêts de l'Union européenne, car comme chacun sait, il est important pour l'Union européenne d'accueillir l'Ukraine. C'est pas du tout un cadeau qu'on ferait aux Ukrainiens. Comment cette information a-t-elle joué sur la campagne des législatives ou au contraire, est-ce que c'est quelque chose que les Hongrois mettent tranquillement de côté ?
Bah, c'est un sujet, en l'occurrence, qui est très complexe parce que les Hongrois, pour leur grande majorité, sont assez anti-russes et assez anti-ukrainiens aussi. Je rappelle que la Hongrie a été tout de même une dictature communiste et que ça n'a pas toujours été particulièrement joyeux vis-à-vis de l'URSS là-bas. Donc, évidemment, la question de la Russie restait importante dans cette campagne. Pour faire simple, Viktor Orban a une certaine proximité avec la Russie, dans le sens où il veut se poser comme l'homme qui permet aux Russes de dialoguer avec l'Europe. Il veut se poser comme un pont à ce niveau-là. Et justement, il va critiquer le fait que l'Europe, elle, ne cherche même pas à négocier avec la Russie. Viktor Orban est également assez proche de Donald Trump. Jed Vance est venu en Hongrie il n'y a même pas une semaine dans le but de soutenir Viktor Orban. Donald Trump envoie des messages de soutien à Viktor Orban, mais les Hongrois eux-mêmes ne sont pas particulièrement pro-américains. En fait, ce qu'on peut voir d'intéressant tout de même dans cette campagne, c'est que Viktor Orban, effectivement, a des liens, et le système Orban de manière générale, a des liens assez privilégiés avec la Russie. Ça, c'est pas quelque chose de nouveau. Après, ce n'est pas ce qui choque forcément le plus les Hongrois. Et puis, d'un autre côté, Viktor Orban retourne lui-même ses accusations, étant donné que, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les médias gouvernementaux et le parti du Fidesz, eux, pour le coup, accusent très fréquemment Peter Maguire, donc l'opposant de Viktor Orban, d'être financé par l'Ukraine. Et alors, le parti TISA, donc le parti Peter Maguire, en fait, recevrait, selon ce que dit le Fidesz, hein, c'est très difficile de savoir, il n'y a pas eu de preuve à ce stade, mais recevrait de l'argent de l'Ukraine pour notamment tout ce qui est digital, numérique, dans leur campagne électorale. Et ça, pour le coup, c'est un argument qu'on voit beaucoup et qui est très porté par Viktor Orban, pour vous dire, à peu près tous les kilomètres et demi dans Budapest, on voit une grande affiche avec Peter Maguire et Volodymyr Zelensky côte à côte, cette idée de qui serait main dans la main et qui pourrait entraîner la Hongrie dans la guerre. Mais le dernier point qui est quand même essentiel, c'est que objectivement, la Hongrie joue pas du tout dans le même camp que l'Union européenne sur la question de la guerre en Ukraine. C'est-à-dire qu'effectivement, la Hongrie, essaye plus de se rapprocher avec la Russie que de soutenir l'Ukraine. Et d'ailleurs, elle s'oppose à beaucoup d'aide à l'Ukraine. Ça, c'est objectivement le cas. D'un autre côté, il ne faut pas oublier que la Hongrie n'est pas dans la même situation que la France. La Hongrie dépend à plus de 80% de son énergie des gazoducs qui mènent en Russie. Donc, on écoutait hier un Slovaque qui parlait de la situation slovaque et de la situation hongroise, et il racontait qu'effectivement c'était la même chose aussi pour la Slovaquie de Fico, et que finalement il y a quand même cette idée que la Hongrie, la Slovaquie et éventuellement la République tchèque pourraient œuvrer main dans la main pour apporter une alternative à la politique actuelle de l'Union européenne sur la question ukrainienne.
Alors, cette campagne est effectivement, malgré tout, réellement informée par l'Union européenne, qui a clairement choisi son candidat, qui a clairement désigné Viktor Orban comme étant la personne à abattre. Et Viktor Orban réagit, vous l'avez souligné, d'une part en accusant son concurrent le plus direct d'être soutenu par l'Ukraine, mais même en faisant une campagne de communication contre l'Ukraine, en expliquant que Volodymyr Zelensky et Magyar sont des ennemis de la Hongrie.
Oui, effectivement, il y a cette idée-là, mais en fait, sur la question de l'Union européenne même, ce qui est assez simple, en fait, si je voulais caricaturer un petit peu, d'un côté, Viktor Orban essaie d'être proche de Trump et de Poutine et contre l'Union européenne. D'un autre côté, Peter Maguire, lui, essaie d'être pour l'Union européenne, contre Trump et Poutine. Enfin, je caricature, évidemment, c'est beaucoup plus complexe que ça et moins caricatural. Mais d'un autre côté, il y a quand même cet équilibre-là qui se met en place. Il faut noter aussi que Viktor Orban, par exemple, a reçu le soutien de la présidente de l'AfD, donc en Allemagne, le parti de droite nationale allemand. En fait, il ne faut pas oublier qu'en l'occurrence, Viktor Orban, lui, a toujours maintenu de bonnes relations avec la CDU, donc la droite classique allemande, va-t-on dire, mais notamment pour des raisons économiques, c'est-à-dire que s'allier avec l'AfD, c'était devenu trop risqué pour maintenir les relations économiques entre la Hongrie et l'Allemagne. Et force est de constater que désormais la situation a un peu changé et que Alice Weidel, elle, et Viktor Orban, eux, se sont rapprochés. Après, il y a d'autres thématiques dans cette campagne qui sont plus importantes que les thématiques purement européennes, pour tout dire. C'est une campagne qui est même très personnelle, je dirais.
Alors, une campagne très personnelle, qu'est-ce que ça veut dire ?
Eh bien, par exemple, je vais prendre le cas de Peter Maguire, on va commencer par là. Peter Maguire est un ancien du Fidesz. Il a été dans le Fidesz pendant, 15 ou 16 ans, ce qui est quand même particulièrement long. Et Peter Maguire n'est absolument pas un gauchiste. C'est ça qui est quelque chose de fascinant. Peter Maguire a récupéré toutes les voix de la gauche, a récupéré toutes les voix de l'opposition et a vraiment fait une campagne anti-Orban. Et alors, pourquoi je dis que c'est personnel ? Parce que c'est un des principaux problèmes avec Peter Maguire, c'est qu'il a été en couple, marié, il a eu 3 enfants avec l'ancienne ministre de la Justice de Viktor Orban, Judith Varga, et il advient que cette Judith Varga et lui ont mis un terme à leur relation, à leur mariage en 2023, et 3 mois après, Peter Maguire a commencé à se relancer dans la vie politique en critiquant très virulemment Viktor Orban, le Fidesz, tout le système qu'il y a derrière, toute la corruption qui peut exister en Hongrie. Et en réalité, ce qui est assez fascinant, c'est que, encore une fois, Peter Maguire était quand même, je dirais pas un haut responsable du Fidesz, mais c'était quelqu'un qui était vraiment dans les institutions. Et d'ailleurs, c'est quelqu'un qui a vraiment été dans le système Orban, c'est-à-dire qu'il arrivait à se dégoter des salaires particulièrement importants, je crois à plus de 30 000 euros, dans certaines institutions qui étaient détenues soit par des proches d'Orban, soit tout simplement par le gouvernement. Et ça, il a été dans ce système pendant 15 ans. Et il advient qu'effectivement, à partir du moment où son histoire avec sa femme s'est terminée, à partir du moment où son divorce a été réalisé, lui, c'est... s'est donc mis à essayer de monter son propre parti. Et alors, pour le coup, c'est un succès qui est fulgurant, il faut le dire, parce que son parti, je crois, est lancé est relancé quelque part fin 2023, début 2024. Et aux élections européennes de 2024, il arrive à 30%, je crois, dans les suffrages.
Alors, si Peter Magyar arrive à une masse aussi considérable de suffrages, c'est parce qu'il propose quelque chose de radicalement différent de Viktor Orban, mais, alors que, vous l'avez souligné, en tant que membre du Fidesz, ou ex-membre du Fidesz, partageant sans doute une partie des opinions du parti auquel il adhérait, sa proposition n'est pas violemment différente de celle de Viktor Orban.
Ah non, en termes de programme, je demandais justement à des Hongrois tout simples qui étaient des militants de base quelque part de chaque parti politique. Ils étaient à 10 mètres l'un de l'autre, ils avaient chacun un stand dans lequel ils étaient en train de faire leur militantisme, à 10 mètres l'un de l'autre sur la même place. Et donc j'aurais demandé à chacun, mais quelles sont les différences de programme entre Peter Magyar et Viktor Orban? Et l'idée générale, c'était que le programme de Orban, eh bien, c'était poursuivre ce qu'il avait fait jusqu'à présent, poursuivre ses réalisations en termes d'immigration, en termes de conservatisme, en termes de droite européenne, en termes de poursuivre ce que Orban avait commencé. Et de l'autre côté, Peter Magyar, son programme, c'était de mettre contre ce que faisait Orban en termes de système, on va dire, en termes de corruption, en termes de même de politique étrangère. En fait, c'est vraiment Peter Magyar a pour objectif de renverser Orban. Le projet, c'est simplement de faire partir Orban. Et après, en termes de politique, honnêtement, Peter Magyar est très prudent sur son programme. Il ne se dévoile pas trop parce qu'il sait que s'il commence à prendre des positions qui sont différentes de celles de Viktor Orban, eh bien, soit on va le traiter de gauchiste, soit on va dire qu'il n'est pas forcément sérieux. Donc, il n'a pas un programme particulièrement établi. L'idée principale, ça reste de dire, là, vous avez Orban, vous n'en voulez plus, c'est avec moi que vous allez le faire partir.
Alors, est-ce que véritablement les Hongrois ne veulent plus d'Orban? Les sondages se tentent à le prouver. Est-ce que c'est l'usure du pouvoir ou est-ce qu'Orban a déçu les Hongrois, lui, avec des promesses qu'il n'aurait pas réalisées?
C'est compliqué parce que en réalité, on voit que la Hongrie, effectivement, économiquement, depuis quelques années, notamment à cause de la guerre en Ukraine, stagne. C'est-à-dire que il y a pas de. Maintenant, je crois que la Slovaquie et la Pologne commencent à avoir une meilleure économie, un meilleur PIB par habitant que la Hongrie, ce qui est un petit peu une défaite. Comme si, en fait, c'est imaginer comme si en France, la politique de notre président est à ce que notre PIB par habitant soit plus bas que celui de notre voisin italien, par exemple. Ce serait absolument terrible. Non, mais plus sérieusement, oui, c'est un petit peu ce qui est en train de se passer. Et en réalité, le problème principal reste le problème que Viktor Orban a créé autour de lui une forme de système. Et dans ce système, il y a évidemment des formes d'excès, c'est-à-dire que des proches de Viktor Orban vont détenir de grandes entreprises d'État. Et on a l'impression que justement, le contraste entre la richesse de certains proches d'Orban et le fait que l'économie générale stagne est évidemment un problème. Après, il faut toujours nuancer parce que forcément, il ne faut pas oublier que Viktor Orban a quand même eu des résultats sur certains sujets. On pense à l'immigration, on pense à la démographie, on pense au conservatisme, on pense à tous ces sujets-là. Mais c'est vrai que sur les thèmes économiques, aujourd'hui, il est considéré comme un petit peu en retard. Et puis, à côté de ça, je vous dis, c'est surtout cette idée d'un système Orban qui visiblement gêne une partie des Hongrois. Mais le problème, c'est qu'évidemment, quelle est l'alternative? L'alternative, actuellement, c'est tout simplement pas Orban. Et Peter Magyar, lui, n'est pas forcément la personne non plus qui a l'air la plus stable de la Terre, la plus imperméable à la corruption, la plus insensible à l'argent et aux femmes. En l'occurrence, il a quand même pas mal d'affaires qui traînent autour de lui. Et donc, même si en réalité les aspects négatifs de Viktor Orban disparaissent avec l'arrivée de Peter Maguire, rien ne dit qu'au contraire, Peter Maguire ne créerait pas un système qui serait encore pire. Pour ça que, évidemment, la situation n'est pas du tout simple à ce stade.
Il nous reste quelques minutes. Oui. La participation aux législatives hongroises va-t-elle être forte ou au contraire va-t-on arriver à des élections comme ça se passe de plus en plus souvent dans le monde avec une participation minimale et un désintérêt en fait des classes hongroises pour la politique intérieure de leur pays?
Eh ben pour tout vous dire, j'avais justement pris quelques notes à ce sujet.
Mais on a vraiment eu raison de vous envoyer là-bas, Alexandre.
Mais oui, merci. Et comme ça, je peux aller trouver des chiffres qui doivent exister d'ailleurs sur Internet. Non, mais plus sérieusement, la participation habituelle en Hongrie pour des élections législatives, c'est entre 65 et 70%. Et en 2022, justement, c'était 70%. Là, ce que m'ont dit un ou deux experts pour le coup du système politique hongrois, c'est qu'ils attendent 73 à 75% de participation. Enfin, ils imaginent 73 à 75% de participation, ce qui serait pour le coup un record, étant donné que le record est à 72%. Et effectivement, on voit, quand on se balade en Hongrie et à Budapest, donc, à quel point les Hongrois sont un peuple ultra politisé, mais à un niveau qui en devient effrayant. C'est-à-dire que, par exemple, sur le trajet depuis l'aéroport jusqu'à l'hôtel dans lequel je réside actuellement, tous les 500 mètres, 700 mètres, je pense, il y avait une affiche en 4 mètres par 3 de Viktor Orban, avec un slogan, bon, alors qui est en hongrois, donc forcément que je ne peux pas lire. Et sur tous les poteaux qui jalonnent les rues, mais que ce soit des poteaux électriques, que ce soit des poteaux de feu rouge, etc., on va dire que sur un sur deux, il y a une affiche électorale pour un candidat d'un parti, de la circonscription, donc pour le candidat de la circonscription, donc pour chaque parti. Donc en l'occurrence, ça fait qu'il est impossible de se balader 5 minutes dans la rue sans être au courant qu'il y a des élections en Hongrie. Mais c'est un niveau particulièrement impressionnant où tout l'espace public semble dédié à la campagne. Là, on sent que, mais d'ailleurs dans tous les partis, hein, c'est-à-dire qu'on sent que effectivement même le Fidesz se sent menacé et donc est ultra mobilisé durant toute sa campagne. D'un autre côté, on peut observer aussi que le TISA, donc le parti de Peter Maguire, est très présent, mais même le parti nationaliste dont je vous parlais, mis avant, que lui aussi a ses affiches un peu partout, le parti socialiste, enfin ce qu'il en reste, lui aussi a ses affiches, a ses militants. On voit évidemment des gens en train de tracter dans Budapest. Enfin, on sent un niveau de politisation qui est quand même particulièrement important, même si faut rappeler que 73% de participation, ce serait ni plus ni moins que la participation en 2022, qui était déjà très basse pour la présidentielle en France. Donc voilà, et après aussi un autre point qu'il faut souligner, c'est que il y aura un vote qui comptera, ce sera le vote de ce qu'on appelle les Hongrois ethniques, c'est-à-dire les Hongrois qui, pour reprendre la formule qu'on me donnait, c'est des Hongrois qui n'ont jamais bougé, c'est simplement les frontières qui se sont déplacées. C'est-à-dire que c'est les Hongrois de Transylvanie, les Hongrois d'Ukraine, les Hongrois de Slovaquie, les Hongrois en fait, de tous les pays alentours, et eux aussi se posent la question de savoir comment ils vont voter, à quel point ils se sentent mobilisés, eux aussi, par une élection dont, évidemment, ils sentent un petit peu moins les effets, ne vivant pas dans le pays.
Alors, et ces Hongrois expatriés, et j'entends bien que expatriés parfois malgré eux, penche-t-il traditionnellement pour le parti Fidesz ou au contraire sont-ils eux aussi tentés par l'alternative?
Voilà, en l'occurrence, c'est un petit peu difficile à dire parce qu'il y a aussi il y a aussi les Hongrois qui vivent en Allemagne ou par exemple en Europe de l'Est, qui eux pour le coup sont plutôt acquis aux idées de changer de direction actuellement et de partir de Viktor Orban. Mais de manière générale, les Hongrois, par exemple, de Transylvanie, sont donc en Roumanie, sont environ 1 million. Et ce qui est particulièrement impressionnant, c'est que les Hongrois de Transylvanie sont quasiment tous pro-Orban. C'est-à-dire qu'on a des chiffres qui sont, je crois, entre 90 et 95% selon les élections, ce qui est absolument, absolument fou. Et puis, en fait, même les enquêtes d'opinion montrent que le TISA, donc le parti de Peter Maguire, est très, très peu populaire. Alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, Viktor Orban, ça reste... et d'ailleurs, c'était une des raisons de ces mauvaises relations avec Georges Simion en Roumanie. Mais Viktor Orban, ça reste quelqu'un qui est très sensible... non pas à l'irrédentisme, ce serait un petit peu exagéré, mais en tout cas à la Grande Hongrie, même à l'idée d'une Grande Hongrie. Et donc à partir de ce moment-là, il a toujours mené une politique qui allait en faveur d'une Grande Hongrie, ce qui signifie par exemple obtenir plus de double nationalité, financer des écoles, financer des églises, financer des associations en Transylvanie. Et donc à partir de ce moment-là, voilà, ils ont même, je crois qu'il y a même un parti politique en Roumanie qui représente en fait les Hongrois de Transylvanie, et pour le coup, effectivement, c'est un parti qui est allié au Fidesz. Donc ça, pour le coup, c'est une communauté qui sera importante, même si les Hongrois ethniques ne peuvent en fait donc qu'assez peu de sièges en termes de circonscription. Et après, donc ils votent plutôt, enfin leur vote comptera plutôt pour la proportionnelle. Et après, le dernier point, c'est les Hongrois, enfin la communauté aussi importante, je crois qu'il y a plus de 150 000 personnes, sont les Hongrois de Transcarpathie, donc en Ukraine, et les Hongrois Transcarpates, eux, eh bien, comme vous le savez, Richard, votent à plus de 90% pour le Fidesz, eux aussi, pour des raisons assez semblables, et ce qui évidemment crée des tensions entre l'Ukraine et la Hongrie, parce que évidemment certains disent que les Hongrois d'Ukraine sont maltraités par l'Ukraine en termes d'identité nationale, etc. Donc, mais je vois que nous arrivons à 9h25 et qu'il va me falloir conclure. Oui. Je connais les us et coutumes de la radio. Pour terminer, effectivement, donc je rappelle qu'on aura les résultats dimanche soir dans la nuit, comme c'est des élections législatives, ça prend toujours un peu plus de temps, que le score sera vraisemblablement très serré, que chaque parti se sent assez sûr de sa victoire, et qu'il n'est pas impossible aussi qu'il y ait des tensions liées à ça. Mais dans tous les cas, je suis sur place. N'hésitez pas à suivre Ligne Droite sur Instagram ou alors sur Twitter pour avoir toutes les informations nécessaires sur ces élections. Et puis, moi, je ne vous dis pas à demain, puisque demain, c'est samedi, et je vous dis à lundi.
Merci. À lundi, Alexandre. Et nous allons entendre tout de suite Jérémy Combe pour une leçon de politesse. Et après, ce sera Tude Dualdoni pour la revue de presse Valeurs Actuelles.
Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Bonjour Jérémy Combe.
Bonjour Richard, bonjour à toutes et tous.
Alors, pour commencer, vous allez nous éclairer sur la manière de prévoir une date pour sa crémaillère. Comment être sûr d'être prêt ?
Eh bien oui, il ne faut pas la planifier trop tôt, cette fameuse crémaillère. Pourquoi ? Parce que le déménagement s'accompagne de nombreuses tâches qui prennent du temps. Lorsque vous vous installerez ou que vous vous installez dans votre nouvelle maison ou appartement, vous devrez déballer vos cartons, placer vos meubles, organiser vos objets et nettoyer, beaucoup nettoyer. Même si l'idée d'organiser une pendaison de crémaillère semble amusante, assurez-vous de prévoir suffisamment de temps pour préparer votre nouvel espace. Vous ne voulez pas organiser la pendaison de crémaillère trop tôt et devoir l'annuler parce que vous êtes à peine installé. Alors surtout, une astuce, invitez vos voisins à cette pendaison. C'est une étape importante pour établir une relation solide et digne de confiance avec eux. Il est essentiel d'entretenir de bonnes relations avec ses voisins, car vous les voyez tous les jours et vous aurez peut-être même besoin de leur aide un jour. Si vous ne prévoyez pas d'inviter les voisins, enfin pas tous, informez ceux qui ne viendront pas de la fête afin qu'ils sachent pourquoi il y a tant de bruit. Un simple mot dans l'ascenseur, dans la cage d'escalier. Vous pouvez également leur dire de venir frapper à la porte si le bruit devient trop fort. C'est une excellente façon de partir du bon pied avec ces fameux nouveaux voisins et de commencer une relation respectueuse. Vous inviterez évidemment vos amis, votre famille. Et puis l'espace va aussi dicter le nombre d'invités. Ne voyez pas trop grand.
Voilà. Ou alors acheter un château. Souvent une crémaillère, ça représente pas mal de personnes justement. Il faut préparer un dîner ou un buffet suffira ?
Alors ça dépend aussi de votre budget. C'est quand même une période où on s'est endetté, ou alors le loyer est plus important, et encore, c'est la première fois que vous allez avoir des frais de logement, car vous quittez le cocon familial. Une crémaillère, on peut recevoir simplement, et vous avez mon autorisation pour demander à chacun, ce qui est rare, d'apporter quelque chose, par exemple une bouteille. C'est assez convivial, la crémaillère.
Ok, alors écoutez vaisselle.
Alors ça, c'est ce qui me fait parfois tourner de l'œil. Je vous donne mon go pour la vaisselle jetable, exception à la règle, mais recyclable. Parfois en carton, les cartons ne sont pas encore totalement déballés, alors votre électroménager n'est pas toujours installé, on est plutôt en mode détente, on simplifie un peu la tâche. Si c'est l'inverse, alors à vous de recevoir dans les conditions dignes du nom « recevoir ». Tout ce que je viens de vous dire, c'est si jamais vous n'êtes pas encore vraiment prêt.
Petite question, suis-je obligé de faire visiter tout mon appartement ou ma nouvelle maison à chaque invité ?
Alors ça, c'est vraiment la question. Il n'y a pas vraiment de règles. Mais l'objectif est quand même de présenter ce nouvel endroit. Sinon, pourquoi faire venir vos amis ? Les chambres, je vous comprends. Mais chacun a un prétexte pour vouloir aller visiter les chambres. Et vous, vous pouvez aussi avoir des prétextes pour ne pas y aller. Déterminez les espaces que vous avez envie de faire découvrir à vos amis. Et je vous conseille d'attendre quand même la période ou si vous avez la chance d'avoir un extérieur, on peut être ou sur votre balcon ou sur votre jardin, ou dans votre jardin, pardon. Comme ça, vos invités oublieront potentiellement de vouloir visiter toutes les salles de bain et toutes les chambres.
Alors, dernier détail, on ne sait jamais comment il faut faire. Faut-il ou non offrir un cadeau ?
Alors, la bienséance voudrait que l'on apporte pour une crémaillère un cadeau qui porte chance à ce nouvel endroit et à la nouvelle vie qui s'amorce ici. Si vous êtes une bande d'amis, faites un cadeau commun. C'est toujours plus agréable d'avoir un joli cadeau que 12 mugs dont on ne sait pas quoi faire. Si jamais il y a plusieurs bandes d'amis, c'est pareil. Les cadeaux isolés, c'est pas top et souvent ils ne servent à rien. Ou alors on les a en plusieurs exemplaires. Choisissez un cadeau pour la maison. Renseignez-vous auprès de vos hôtes, l'air de rien. Il y a des dépenses que l'on reporte lors d'un aménagement. Alors peut-être que finalement un robot peut être un gentil cadeau, alors que recevoir ce robot à Noël, c'est jamais très apprécié.
Voilà, très bien, la crémaillère comme alternative à Noël. Merci beaucoup.
Je
Jérémy
Combe, à la semaine prochaine.
Ligne droite, la revue de presse.
Et pour cette revue de presse, c'est avec notre partenaire Valeurs Actuelles. Bonjour Tugdual.
Bonjour Richard, bonjour à tous vos auditeurs. Cette semaine, en une de Valeurs Actuelles, une brûlante d'actualité, si vous me permettez l'expression, puisqu'il s'agit de la guerre de l'énergie. Alors la guerre de l'énergie, c'est à la fois les risques de pénurie d'essence, c'est à la fois l'électricité hors de prix que paient les Français. On a vu avec le blocage du détroit d'Ormuz que l'énergie était évidemment... un élément absolument structurant de l'économie mondiale, et que nos grandes démocraties, nos grandes puissances mondiales, avec des PIB au sommet du classement de la planète, étaient finalement extrêmement vulnérables et extrêmement fragiles. Pour ce qui concerne la France, on n'est évidemment absolument pas autonome en hydrocarbures. Ça, c'est à cause de la géologie et on n'y peut pas grand-chose. En revanche, on a aussi une interview de Henri Proglio dans le magazine qui interroge sur le fait de est-ce que c'était une bonne idée, par exemple, de privatiser Elf, comme ça a été le cas. Est-ce que les choix stratégiques de Total Energy ont été les bons? Total s'était tourné vers la Russie, avait eu du nez de ce point de vue-là. Mais ça, c'était avant le conflit, évidemment, avec l'Ukraine. Et le gros morceau, si à nouveau, vous pouvez me permettre l'expression.
Je vous permets tout, Tugdual.
C'est évidemment ce qu'on a fait avec l'électricité en France. On avait une électricité non carbonée, abondante, pas chère, avec des centrales nucléaires qui fonctionnaient extrêmement bien. Vous et vos auditeurs savez très bien que des choix politiques désastreux ont été faits. Sur l'autel d'ailleurs d'accords électoraux un peu minables, hein, entre le Parti Socialiste et les écologistes, c'est même pas, si vous voulez, de la doctrine contre laquelle on pourrait tempêter, hein, mais vraiment penser, c'est malheureusement beaucoup plus petit que ça, et une suite d'impéritie de la part de nos gouvernants, évidemment la fermeture de la centrale de Fessenheim, qui fonctionnait très bien, D'ailleurs, on est retourné à Fessenheim cette semaine en reportage dans le journal et pour, comment dire, observer à hauteur d'homme cette espèce d'énorme suicide français, comme on en est les spécialistes. Donc avec des habitants qui nous racontent à quel point leur centrale fonctionnait très bien et apportait évidemment de l'emploi localement, mais surtout produisait énormément d'électricité. Et on se demande encore pourquoi on scie des branches sur lesquelles on est assis. Et il y a une réflexion un peu plus philosophique, entre guillemets, de Michael Fonton dans le dossier qui rappelle que l'énergie n'est pas une conséquence de l'économie, mais en fait qu'elle est la source de tout et la cause de tout. Et voilà, j'espère que ça intéressera vos lecteurs en cette période de blocage du détroit d'Ormuz.
Oui, parce qu'on n'a pas du tout l'impression que ça va s'améliorer très rapidement. Et le détroit d'Ormuz, bien sûr, une trêve a été proclamée, les Libanais l'attendent toujours, et on n'a pas du tout l'impression que le détroit d'Ormuz est rouvert. Bon, et comme d'habitude, et dans la minute qui nous reste, le choix douloureux de choisir un article plutôt qu'un autre.
Alors vous, est-ce qu'il y en a un qui vous a particulièrement marqué?
Alors, vous me pardonnerez, Duc Duhan, mais je n'ai pas reçu mon valeurs actuelles, donc je pense que il va arriver pendant qu'on est en train de parler. Normalement, je le reçois le jeudi, donc je me jette dessus. Et là, hier, à 23h40, j'ai fini par aller me coucher en me disant que la poste ne me l'apporterait pas. Voilà. Donc je l'aurai ce matin.
On ne parle pas souvent de politique ensemble. Je pense que ça nous arrivera plus dans les mois qui viennent. Mais on a, entre guillemets, un petit dossier politique, puisqu'on a un article qui revient sur la biographie qu'a publié Hubert Coudurier, le patron du Télégramme, sur Marine Le Pen, qui est publié chez Plon, qui est assez intéressante parce que Hubert Coudurier est un journaliste madré, plein d'expérience, qui est à la fois patron de presse et journaliste, donc sa famille est propriétaire de cet éminent journal breton. Et Hubert Coudurier n'est pas un rubricard, comme on dit sur le Rassemblement National, c'est pas un spécialiste du Rassemblement National. En revanche, j'étais très intéressé par la personnalité de Marine Le Pen, le mystère évidemment que représente cette femme, avec son parcours à la fois cabossé et si romanesque. Donc on revient sur ce livre, et puis on a un article qui fait un peu le point, s'appelle « Ils étaient 10 », en référence... à Agatha Christie, un article qui revient sur l'élection présidentielle et cette espèce de casting impossible qui est en train de s'opérer à droite, au centre droit, cette impossibilité pour les uns et les autres d'émerger. Et je pense qu'il était le moment effectivement de faire le point sur les ambitions, fussent-elles estropiées, des personnages politiques en vue de 2027.
Les ambitions estropiées, voilà, j'espère que ce sera le livre de souvenirs politiques que vous écrirez un jour, Tuc Duhan. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à la semaine prochaine.
Zone libre.
Et pour la zone libre, j'ai le plaisir d'accueillir évidemment Magda et Louis. Magda, voilà, je ne vous demanderai plus de nouvelles des Lapins de la Mayenne, même si ça a été ma nouvelle préférée. Qu'avez-vous apporté dans votre besace aujourd'hui?
Mais je pense que j'ai apporté quelque chose de tout aussi intelligent, mais cette fois-ci un peu plus politique. L'idée de l'Inde, l'Inde a une idée pour empêcher l'immigration clandestine depuis le Bangladesh. Alors que le ministre des Affaires étrangères d'Inde et du Bangladesh avait convenu mercredi de relancer les relations entre leurs deux pays. Il y a une idée des autorités indiennes qui montre qu'il y a quand même peut-être encore un peu de tension entre les deux pays, puisque sur la frontière qui sépare l'État indien du territoire bangladais, seuls 1,6 km des 2,2 km qui séparent les deux territoires sont protégés par des barrières. Alors l'Inde a la super idée de bloquer les frontières avec des animaux. Et ils étudient donc l'idée d'un déploiement de reptiles tels que des serpents, des crocodiles, dans les rivières qui séparent donc les deux territoires. Et c'est une idée qui est assez innovante, mais qui suscite évidemment de nombreux défis, notamment en matière donc de sécurité, puisque comment déjà se procurer les reptiles, premier point, et quel serait leur impact sur aussi les habitants des villages qui sont installés le long des rivières.
C'est ça.
Voilà, donc ils vont étudier la faisabilité de ce projet, de cette approche, et si jamais ça fonctionne, on proposera peut-être le projet pour notre gouvernement.
Tout à fait. À bientôt des crocodiles municipaux à Menton. Et vous, Louis Rigaudière ?
Bonjour à tous, bonjour Richard. Alors, on va rester un petit peu dans la politique, et pour une fois, je n'aime pas vraiment le sujet que je vais évoquer ce matin, parce qu'on nage un petit peu dans les marécages du journalisme et dans toutes ces dérives, hein, avec ce terme barbare qui est la pipolisation de la vie politique. Vous avez déjà entendu ce terme, j'imagine. Alors, Alexis Corbière l'a rebaptisé en pipopulisme, en parlant évidemment bien sûr de Jordan Bardella et de sa compagne Maria Carolina de Bourbon des Deux Siciles. J'ai dû regarder la une de Paris Match pour ne pas me tromper sur le pédigré de la personne, parce que cette femme en fait n'est pas n'importe qui, parce qu'elle s'était faite connaître il y a 7 ans, 2018, dans une émission du service public qui recueillait les témoignages de personnes issues de la haute noblesse. Et évidemment, on lui a posé cette question, elle était encore une jeune adolescente, quelle était pour vous la pire bêtise faite en famille ? Eh bien, je vous ai découpé cet extrait et c'est assez amusant, écoutez.
Est-ce qu'il y a des dérapages comme toutes les adolescentes ?
Alors parfois on fait des choses avec nos amis, comme disons des bêtises.
Alors qu'est-ce que vous appelez des bêtises ?
Alors, moi, je m'en souviens qu'à Monaco, on a deux amis qui sont quand même très proches de nous. Et alors, une fois, on s'était cachés derrière des arbres. À chaque fois qu'il y avait des gens qui passaient, on faisait bouh.
On leur faisait peur. Ah ouais, alors. Mais est-ce que quand vos parents ne sont pas là,
voilà,
est-ce qu'il y a quand même des dérapages autres que bouh derrière les arbres? Parce qu'on est, on sait pas bien grave. Mais est-ce qu'il y a des choses, en effet,
non, mais
où...
Puis, j'ai pas terminé l'histoire, qu'on est parti. Et alors, on s'est caché de nos parents,
oui,
comme pendant 6 ou 7 heures.
Ah oui, vous avez...
Et donc, ils étaient assez inquiets. Et puisqu'on n'avait pas de batterie sur notre téléphone, ils n'arrivaient pas à nous joindre. Et on n'a pas pu répondre.
Alors, on a connu bien pire comme bêtise.
Bah oui,
hein,
je trouve ça charmant.
C'est charmant. Et c'est vrai que cette éducation... incroyable, ça manque hein, vraiment de voir des petites jeunes comme ça.
Ah, alors qu'à côté de ça, nous, on a des députés comme Louis Boyard. On lui dit « Qu'est-ce que vous avez fait comme bêtise ?» Alors il dit « Je ne sais pas bien, parce que si je dis tout, je me retrouve derrière les barreaux. »
C'est ça, ouais. Non, mais vraiment, c'est assez remarquable de voir ça. Mais après, elle a eu l'évolution qu'elle a eue, hein, parce que maintenant, je crois qu'elle est influenceuse et qu'elle a une femme d'affaires. Hein. Et bon, maintenant, la question, c'est du côté de Jordan Bardella, est-ce que ça va lui servir, cette opération de com' politique ? Est-ce que les gens vont avoir une meilleure image de lui en vue de la présidentielle si Marine Le Pen ne peut pas y aller ? Est-ce que cette femme va vraiment l'aider à accéder à l'Élysée ? Je pense que oui, parce que ça va lui permettre de crédibiliser son image de président, si jamais il y arrive, et que voilà, il a besoin d'une première dame pour accéder, une première dame identifiable et connue. Et ça peut marcher.
Ça peut marcher, et puis voilà, tous ceux pour qui le nom de Bourbon signifie quelque chose seront peut-être surpris de cette alliance de la République et de la monarchie. Merci beaucoup, Louis. Et normalement, Maïlys Clozel va revenir dans les jours qui viennent avec un reportage plus complet sur... la campagne de Jordan Bardella. Merci beaucoup et
merci.
Évidemment à très vite sur Radio Courtoisie, parce que je crois que vous êtes là tout le temps.
Et
chers auditeurs, il est temps de prendre congé de vous sur YouTube et sur X. Merci beaucoup de nous avoir suivis. N'hésitez pas à continuer à entretenir cette relation qui nous est chère entre vous et nous, par exemple en nous soutenant et en donnant un petit don.
Pour vos dons en ligne, je vous invite à vous rendre sur cette adresse, notez-la bien, soutenir.rc.fr, et faire donc des dons en ligne. Et puis également d'envoyer vos chèques par la poste à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Maintenir le lien, effectivement, c'est une belle image, Charles. Voilà.
Et tout de suite, nous allons réécouter le sujet de ce matin avec l'avocat libanais Wadi Hakel. Israël frappe sans relâche le Liban, et non, ce n'est pas du tout une divine surprise, comme le disait Jean Messia hier.
Ligne droite. Debout les Français.
Et Debout les Français, c'est avec Wadi Hakel, avocat libanais, avec qui nous allons parler de la situation au Liban. Bonjour maître.
Bonjour monsieur.
Alors, évidemment, lorsqu'on a pris contact avec vous, le Liban venait de connaître l'attaque israélienne la plus sévère et la plus incroyable. Plus de 300 morts, plus de 1000 blessés, et évidemment des dizaines et des centaines d'immeubles et d'appartements détruits. Et, miracle, peut-être, on annonce une trêve hier soir, trêve évidemment fragile. Comment la population libanaise accueille-t-elle cette trêve ?
Trêve, je ne sais pas pour l'instant, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas une trêve pour l'instant au Liban. Mais certes, ce que nous subissons aujourd'hui à Beyrouth et sur l'ensemble du territoire libanais, ce n'est pas un simple conflit, c'est une agression israélienne directe. Et au regard des faits, c'est un crime contre l'humanité. Cher monsieur, on tente de nous vendre l'image d'une guerre technologique, d'une frappe, d'une précision chirurgicale. Mais la réalité sur le terrain dément ce narratif marketing. Ces bombardements fauchent des centaines de vies civiles, des pères, des mères, des enfants qui n'ont absolument aucun lien avec les tambours de la guerre. Ce qu'ils ont fait, les Israéliens, hier et avant-hier à Beyrouth, c'était terrifiant. Chaque immeuble qui s'effondre est la preuve que la distinction entre cibles militaires et zones résidentielles n'est plus qu'une fiction juridique. À Beyrouth, à Tyr, dans le sud, au Mont-Liban et un peu partout. Ce qui est le plus glaçant, c'est cette normalisation du chaos. Le droit international, cet édifice qui est construit pour protéger les plus vulnérables, est aujourd'hui foulé aux pieds avec une désinvolture totale. Israël semble agir dans une impunité absolue, faisant fi des conventions de Genève, par exemple, comme si elle n'était que la suggestion facultative. Cette absence de réaction internationale qui reste, là je trouve que les Français, déjà, ils prononcent bien et il essaye d'aider le Liban ou bien d'autres pays, mais cette réaction mondiale est un aveu de faiblesse juridique. Si le droit, cher monsieur, ne protège plus le Libanais, il ne protégera bientôt plus personne. Nous ne pouvons plus nous contenter de statistiques froides. Il y a des centaines de morts, des milliers de blessés. Nous parlons de destins brisés, de familles complètement déracinées. Et d'un peuple qui refuse d'être le dommage collatéral d'une géopolitique cynique dans la région. Le droit à la vie, à la sécurité, pour les Libanais, c'est un droit universel. Pourtant, pour nous, aujourd'hui, il semble être devenu un luxe qui est inaccessible, complètement inaccessible. Chaque maison détruite est un témoignage de l'échec d'une conscience universelle.
Alors effectivement, Benjamin Netanyahou et son armée ont décidé d'envahir le Liban et sous le prétexte d'exterminer le Hezbollah et ils ont décidé aussi qu'ils allaient en fait conquérir le Liban. À défaut de l'avoir décidé, en tout cas ils le proclament par la voix de certains de leurs ministres en expliquant qu'il faut aller jusqu'au Latani et donc il y aurait une nouvelle portion du territoire libanais qui en fait deviendrait israélien. Ce n'est pas la première fois qu'Israël envahit le Liban, c'est toujours à cause du Hezbollah. La population libanaise voit-elle le Hezbollah comme la cause de ses malheurs ou, au contraire, considère-t-elle que c'est le Liban qui est attaqué?
Cher monsieur, pour expliquer un peu, je dois retourner quelques années dans l'histoire libanaise, qui est une histoire sanglante. Le Liban lui-même ne cherche pas la guerre. La grande majorité de notre peuple ne demande qu'une chose, c'est de vivre en paix. Mais l'histoire nous est tombée dessus. Depuis l'exode des Palestiniens de leur terre en 1948, le Liban paye une facture exorbitante pour des conflits qui ne sont pas les siens. Les problèmes ont commencé avec Israël depuis 1948 et non pas depuis 1982, quand le Hezbollah il a commencé ses activités militaires au Liban. Notre terre est devenue malgré elle le théâtre où se jouent les partitions sanglantes des puissances régionales et internationales. Dans les années 50, nos problèmes, c'était à cause du grand conflit entre les États-Unis et l'Union soviétique qui était représenté par Nasser dans notre région, par les Palestiniens armés au Liban à cette époque. Et on a eu des conflits militaires avec Israël. Donc nous sommes les victimes d'une instrumentalisation de nos propres clivages politiques par des forces qui nous dépassent. Le Liban est plongé dans un abîme car il a été transformé en un terrain d'expérimentation. Tout à fait, c'est un terrain d'expérimentation pour les ambitions des uns et des autres. Ce n'est pas une guerre libanaise. C'est la guerre des autres sur notre sol. Le citoyen libanais se retrouve pris au piège d'une équation où il n'est qu'une variable d'ajustement. Cette exploitation de notre souveraineté a conduit à une érosion totale de notre stabilité. On utilise notre géographie entre la Syrie, entre Israël, on utilise nos tensions. Et on sacrifie notre jeunesse pour des intérêts qui se décident à des milliers de kilomètres, des fois de Beyrouth. Il est temps que ça s'arrête. Nous, comme Libanais, nous ne voulons plus être une boîte aux lettres pour les messages sanglants entre puissances. Maintenant, c'est la guerre entre l'Iran et Israël, et nous, on paye le prix au Liban. La neutralité et la souveraineté ne sont pas des slogans. À Beyrouth, ce sont des nécessités de survie humaine. Et pour cela, le Liban doit cesser d'être un champ de bataille par procuration pour redevenir une nation. Et on tient bon pour l'instant à Beyrouth pour que notre destin appartienne enfin à nos citoyens.
Alors, Benjamin Netanyahou, qui a décidé donc de ces frappes et qui les a permises, qui les a ordonnées, a expliqué que les frappes contre le Hezbollah se poursuivraient pour, je cite, « rétablir la sécurité pour les habitants du nord d'Israël ». Est-ce qu'on a vraiment l'impression que Benjamin Netanyahou est en train d'assurer la sécurité des habitants du Liban ?
Ah, surtout pas, surtout pas. Il s'en fiche carrément des Libanais, des citoyens libanais. Et l'exemple le plus choquant, c'était ce qui s'est passé à Beyrouth il y a moins que 24 heures. Et partout, c'est pareil. Je ne vais pas citer seulement Beyrouth. Je cite tout le Liban et les Israéliens, Netanyahou, l'armée israélienne. Ils s'en fichent à ce qu'un quartier soit résidentiel ou pas. Les bombardements, on subit les bombardements israéliens par tous les Libanais, même que la majorité des morts jusqu'à maintenant ne sont pas des militaires, ni du Hezbollah, ni d'autres. La majorité, ce sont des civils libanais, des enfants, des femmes, des familles tout entières. Un cimetière au Bekaa était la cible des missiles israéliens. Donc, ce n'est pas le cas, ce n'est pas surtout pas le cas que l'armée israélienne ou Benjamin Netanyahou, ils s'en doutent des Libanais ou bien des civils libanais. Et là, je dois bien signer, monsieur, que les problèmes au Liban, que des fois les gens, d'ailleurs, ne savent pas que la réalité, elle est beaucoup plus difficile que ça au Liban qu'une simple terreur armée pour l'instant, puisque le Liban, depuis 2019, il a subi l'une des plus grandes escroqueries financières de l'histoire. 120 milliards de dollars, les économies de toute une vie des Libanais se sont volatilisées dans les méandres d'un système bancaire défaillant. Et c'est un siège financier que nous subissons depuis plus que 6 ans. Et c'est ajouté l'explosion apocalyptique du port de Beyrouth en 2020. Vous vous en rappelez, bien sûr, le 4 août 2020. Et puis l'effondrement total de la monnaie. Et ça, ce n'était pas le hasard qui nous a tiraillés sur tous ces phénomènes désastreux. Les Libanais, donc, se sentent pris en étau, otages entre l'enclume iranienne et le marteau israélien. Nous n'avons plus de soupape de sécurité. Le peuple est devenu le bouclier humain de tensions sécuritaires permanentes. Nous vivons dans une pression double. La menace des bombes au-dessus de nos têtes et l'angoisse de la faim dans les foyers libanais. Il y a une absence totale de balance entre la brutalité des frappes israéliennes et l'absence criante d'une capacité de défense nationale structurée. Le Liban ne peut pas payer pour l'instant pour former une armée de défense libanaise qui peut survivre contre l'armée technologique superpuissante israélienne. La paix ne viendra pas via une guerre ou bien une défense armée. C'est un sentiment d'impuissance de voir sa maison s'écrouler ou ses économies disparaître sans pouvoir se défendre. L'âme de la nation libanaise, elle est complètement rongée. Le Libanais est devenu un survivant professionnel, mais la résilience, elle a ses limites.
Oui, la résidence a ses limites. Et là, s'il nous reste juste une minute, Benjamin Netanyahou donc prétend continuer à assurer la sécurité des Libanais en les bombardant. Le chef d'état-major de Tsahal a expliqué que son armée allait continuer à combattre le Hezbollah avec une grande intensité. À votre avis, cette trêve va-t-elle malgré tout se maintenir fragilement pendant quelques jours ou, dans les faits, le massacre d'hier va-t-il en fait n'être que le début d'une longue série d'attaques continuelles au prétexte d'assurer votre liberté ? Il ne reste plus que 45 secondes, pardonnez-moi.
Ah oui, non, monsieur, nous regardons l'avenir avec une inquiétude légitime. Le futur nous apparaît gris, presque opaque. Dans un Moyen-Orient au bord d'un effondrement géopolitique majeur, et on est le cas. Mais je tiens à mentionner que dans ce chaos, nous, les chrétiens du Liban, portons une responsabilité historique. Malgré les pressions, nos villages du Sud résistent et nos villes partout ailleurs ouvrent leurs bras aux déplacés de toute confession. Cette solidarité est notre réponse à ceux qui veulent nous diviser ou bien tuer l'âme du Liban. C'est notre dernier rempart et malgré l'obscurité ambiante, malgré les bombes et les complots, nous portons en nous la flamme d'une espérance qui ne pourra éteindre. Et c'est ici, au Liban, dans la Terre Sainte, que nous sommes nés et c'est ici que nous bâtirons demain et nous continuerons à combattre. Et merci pour vous, merci pour vos sentiments et merci pour nos pensées. Vous nous aidez beaucoup en faire passant nos paroles pour l'extérieur, pour la France, pour les chers Français.
Merci beaucoup, maître, et nous vous souhaitons évidemment tous les courages.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite avec Richard de Sèze.
Chers amis, il est temps de nous quitter. Évidemment, on va vous redemander de nous soutenir. Alors, vous avez parfois l'impression qu'on est un peu insistant. Vous êtes à 3 appels au don en une demi-heure. C'est parce que en fait, on vous aime et on espère que vous nous aimez aussi. Et qu'on a besoin de cet argent pour rester indépendant. On a besoin de cet argent pour envoyer Alexandre en Hongrie. On a besoin de cet argent pour tout en fait, et y compris pour produire d'excellentes émissions.
Effectivement, Richard, si nous insistons, c'est que c'est très important. Faites-nous des dons en ligne sur soutenir.rc.fr et envoyez vos chèques à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris, pour pouvoir assurer toutes les choses dont Richard vous parlait à l'instant.
Et ce qu'on est capable d'assurer, c'est notamment tout ce qui va avoir lieu après la matinale.
Après la matinale, dans un instant, promenade des Flâneries au domaine de poésie de Pascal Payen Appenzeller. À midi, en direct, le libre journal des éditeurs, dirigé par Jean-Paul Nadéo, opération Duc de Windsor, petites histoires de la grande musique et sur le chemin des cathédrales. À 17h, histoires à la loupe de Patrick Simon, document d'archives du 11 octobre 2024. puis à 17h30 en direct, Restons Courtois, dirigé ce soir par Marc Baudrier, à suivre en direct sur la chaîne YouTube de Radio Courtoisie ainsi que sur X. Entre autres sujets, Maria Carolina, le coup de maître de Jordan Bardella, dont Louis nous parlait il y a quelques instants, ou encore l'Iran, l'impossible paix. Et puis à 19h30, Il était une fois, dirigé en direct par Patrick Simon, un entretien avec Philippe Charlez et Marie-Josette Liégeois, deuxième épisode. 21h30 en direct, Provolongation, dirigé par Stanislas Rigaud. Et puis nous finirons la soirée avec Patrick Banken et l'émission Chant Grégorien consacrée au premier dimanche après Pâques.
Eh bien, merci beaucoup à Arnaud et nous vous disons à lundi parce que demain, c'est samedi.
À lundi.